おかしい、おかしい。おかしい。
Bonsoir et bienvenue à la tribune de la presse ce vendredi 24 octobre 2008. Comme chaque semaine, nous analysons quelques grands faits ayant dominé l'actualité de la semaine. Trois thèmes sont à la une de cette émission. L'attente du nouveau gouvernement, la RDC qui rate l'organisation du prochain sommet de la francophonie au profit du Madagascar, ainsi que les différentes attaques de la LRA à Dungu dans la province orientale. Pour en parler, trois conférences étaient invitées. Jacques Kimpozo Mayala, coordonnateur ou rédacteur en chef adjoint du quotidien chinois Le Pas, Albert Omba, journaliste à la radio Tropicana FM et au journal Numérica, Léon Moïse, rédacteur en chef de la radio communautaire de Kolwezi au Katanga. Il intervient au téléphone depuis cette ville. Les manchettes du quotidien paru cette semaine à Kinshasa ont fait état notamment de la formation du gouvernement Mouzito, de l'insécurité en province orientale ainsi que du sommet de la francophonie tenu à Québec au Canada. Notre confrère Guy Maté a lu pour vous ces journaux et il vous en fait le point.
Attente prolongée du gouvernement Mouzito 1, les raisons du blocage suite à la tempête des tropiques, à la une de son édition de vendredi 24 octobre. Ce journal parle des deux éléments majeurs qui bloquent la publication de la composition du gouvernement. Outre la boulimie des chefs des partis politiques, la tempête des tropiques cite la liste noire laissée par Gizenga à son successeur. Sur cette liste, Antoine Gizenga aurait communiqué à son remplaçant les noms des 15 anciens ministres à ne pas reconduire. Mais les titres du soir de ce vendredi annoncent la fin du blocage. Mouzito 1, enfin libéré, révèle les confrères. Les finances, poursuit-il, attisent des convoitises et une surprise de dernière minute est possible. D'après le même journal, la fronde qui était en train de progresser au sein de la famille du chef de l'État s'est finalement apaisée grâce à une série de rencontres entre les différents présidents des formations politiques et aussi l'implication tant du président de la République que du premier ministre. Est-ce de la RDC, la LRA mène le feu dans les hauts où elle est, fait savoir la tempête des tropiques à la une de son édition de jeudi 23 octobre. À en croire ce journal qui cite certaines sources, les rebelles ougandais de la LRA ont fait irruption le week-end dernier dans la localité de Bangadji, à plus ou moins 80 km du territoire de Dungu en province orientale. Les bilans avancés par les quotidiens du boulevard des 30 juin fait état d'une dizaine de tués parmi la population civile et 5 rebelles tués par la population qui a user des armes blanches pour se défendre. Le potentiel de sa publication de mardi 21 octobre rapporte que la RDC organisera le 14e sommet de la francophonie en 2012. Les confrères notent le succès du Madagascar dans ses choix au détriment de la RDC. Plusieurs pays francophones étaient convaincus que la RDC était bien placée pour l'emporter haut la main face au Madagascar, également candidat pour le 13e sommet de la francophonie. Mais rapporte le potentiel, le président malgache sur place avait entrepris son lobbying pour remporter la mise. Ce que certains qualifient de défaite de la RDC, le journal L'Avenir tranche dans son éditorial. Francophonie qui perd gagne. Par ce titre, l'éditorialiste de L'Avenir renseigne que la RDC a perdu le sommet de 2010, mais gagne celui de 2012. À une condition, prévient l'édito de L'Avenir, qu'un autre événement ne vienne imposer l'illégibilité de Kinshasa, comme à l'époque de Mobutu.
Merci beaucoup Guy Maté. Jacques Kimpozo Mayala, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes coordonnateur ou rédacteur en chef adjoint du quotidien chinois Le Phare. Y a-t-il d'après vous des éléments importants qui ont soulevé les journaux chinois dans cette revue de la presse?
Oui, les journaux de Kinshasa nous ont renseigné sur l'évolution des tractations au niveau de la formation du gouvernement attendue depuis 2 semaines. Ils nous ont renseigné également sur ce qui s'est passé à la francophonie, notamment l'échec de la candidature de notre pays, un fait qui a fait très très mal aux Congolais. C'est peut-être en liaison directe avec nos différentes faiblesses sur tous les plans. On va y revenir plus tard. Oui. Ils nous ont également fixé sur la situation sécuritaire qui prévaut en Ituri, et plus précisément à Dungu, où la fameuse rébellion ougandaise LRA continuer à causer des misères à nos compatriotes.
Merci beaucoup, Jacques Okimpoto. De toutes les façons, nous y reviendrons. Nous avons également dans ce studio Albert Omba. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à la radio Tropicana FM et au journal Numérica. Peut-être avez-vous relevé quelques faits importants relevés par les journaux quinois. Comment ont-ils traité, d'après vous, l'actualité, les grands faits d'actualité de la semaine?
Oui, en dehors des faits qu'on vient de citer ici, il y a le problème de l'Est au Nord Kivu où Laura Kunga a accusé les forces armées congolaises qui utilisaient dans leur, au sein de leur rang des éléments des FDLR. Et il y a eu aussi une réaction de FARDC qui ont dit qu'ils doivent tout faire pour mettre hors de temps de nuire tous les FDLR. Aussi la réaction du Conseil de sécurité qui a demandé à toutes les parties à conflit à l'Est de cesser immédiatement les combats pour permettre à ce que les humanitaires puissent aider la population.
Merci beaucoup Albert Omba. Nous en aurons directement à Colisie, au Katanga, d'où intervient notre confrère Léon Moïse. Bonsoir Léon.
Bonsoir Claude.
Vous êtes rédacteur en chef adjoint de la radio communautaire du Colisie au Katanga. Comment avez-vous trouvé la façon dont la presse chinoise a abordé quelques grands faits d'actualité de la semaine?
Merci. En ce qui concerne ce que nous venons de voir sur la presse chinoise, eh bien, en ce qui concerne l'attente du nouveau gouvernement, la presse chinoise est en train de tâtonner sur les différents ministres qui vont, bien entendu, faire décoller notre pays. Là, ce ne sont que des supputations. Mais en ce qui concerne la francophonie, vraiment, c'est un rendez-vous manqué pour la République démocratique du Congo. Et la presse a bien traité sur la guerre à l'Est, notamment la guerre que la population paysanne de cette partie de l'Est souffre avec l'armée du Seigneur. Donc, la presse chinoise à la page de l'information dans notre pays.
Merci beaucoup, Léon Moïse. Donc, vous êtes rédacteur en chef de la radio communautaire de Kolwezi au Katanga. Passons directement à notre premier thème. La mouture du gouvernement d'Adolphe Nzeto est déjà sur la table du chef de l'État. Selon des sources proches du Palou, Joseph Kabila en a parlé avec le Premier ministre mercredi dernier. Une autre audience était prévue hier jeudi pour les dernières retouches du gouvernement qui restaient très attendues ce week-end, mais il faut encore régler la question des animateurs de certains ministères ainsi que celle du quota de répartition des postes. Notre confrère Jeff Ngoy nous en dit un peu plus.
Tout est déjà fait prêt. Des sources fiables et il nous revient que le Premier ministre Adolphe Nzeto a remis au chef de l'État la composition de son gouvernement. Plus rien ne peut bloquer la signature d'ordonnance. Seulement voilà, la même source renseigne que les chefs de certaines formations politiques sont en train de monter les enchères. Ils ne veulent pas quitter le gouvernement par peur du chômage. Joseph Kabila les a même reçus hier jeudi pour arbitrer. Mais tout le monde veut rester au gouvernement comme si personne ne pouvait servir les intérêts du pays en étant ailleurs. Un autre point d'achoppement se situe au niveau du quota réservé inéquitablement aux formations politiques de la coalition. Pourquoi seul le PPRD peut-il s'arroger plus d'une dizaine de postes ministériels au détriment d'autres grandes formations politiques comme l'UDEMO et le PANU avec deux postes chacune? S'interrogent certains ténors de la coalition qui se considèrent loués lors des négociations du partage des pouvoirs.
Merci beaucoup donc à notre confrère Jeff Ngoy. Je me tourne de nouveau vers Jacques Kimpozo. Quel commentaire pouvez-vous faire par rapport à cette attente du nouveau gouvernement? Nous avons entendu notre confrère Guy dans la revue de la presse dire qu'il y aurait une liste noire d'une quinzaine de ministres qu'aurait laissé Antoine Gizenga à Mouzito, donc des ministres n'est pas à reconduire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Comme l'opinion le sait à travers les journaux et même les médias audiovisuels, le sujet des blocages sont connus. C'est d'abord le format du gouvernement lui-même. Nous avons appris que les chefs des partis politiques qui sont au gouvernement ont souhaité qu'il y ait une équipe éléphantesque qui devrait dépasser les 45 ministres, de manière à s'aménager eux-mêmes de postes et aussi pour certains de leurs collaborateurs. La deuxième préoccupation qui bloque, c'est le fait que la plupart des chefs des partis politiques n'ont pas apprécié la proposition du Premier ministre qui leur demandait de proposer 3 noms à chaque poste. Craignant le syndrome du fameux Ilunga Kasongo de février 2007, qui n'avait pas été trouvé par Gizenga, ils ont proposé la formule du candidat unique pour chaque ministère. Jusque hier ou avant-hier, ce sont ces deux problèmes-là qui bloquent la composition du gouvernement.
Merci beaucoup pour ces informations. Albert Omba, qu'est-ce que vous en savez?
Ah bon. Au niveau du gouvernement, normalement, il y a le problème que vient d'évoquer Jacques tout à l'heure, où les enchères qui ont été montées par les responsables des partis politiques. En dehors de cela, il y avait le problème de taille aussi, de répartition des quotas, parce que vous savez que le PALU, qui est un parti aussi assez grand, ne pouvait pas accepter 2 postes gouvernementaux. Alors que le PPRD s'est tapé plus d'une dizaine. Donc, tous ces éléments-là font qu'il y avait un petit problème. Et puis, la crainte aussi.
Excusez-moi, quel poste on a donné au PALU?
On parlait de 2 postes. Je ne sais pas lequel. Et alors, 2 postes, 2 ministères pour le PALU, c'est vraiment. Alors que c'est eux qui viennent après le PPRD, ça posait aussi un problème important. Et il y avait aussi un autre problème au niveau de l'ossature même, où on devait enjoindre au Premier ministre 2 vice-premiers ministres. Je ne sais pas si une solution a été trouvée à ce niveau-là. Et nous, une autre difficulté, c'était les anciens ministres qui devaient quitter aussi le gouvernement chacun, et devaient faire des démarches à coulisses pour maintenir son poste.
Merci beaucoup, Albert Omba. Léon Moïse, est-ce que vous êtes du même avis que nos 2 confrères?
Je me suis simplement dit que les tractations au sein du gouvernement qui va venir, ça tourne autour, moi je peux dire, des intérêts égoïstes. Nous devons voir que la population attend de ce gouvernement pour que l'histoire décolle dans notre pays. Donc, le problème se trouve à ce niveau-là-bas. Il faudrait que ceux qui sont au gouvernement et qui voudraient juste rester au niveau du gouvernement puissent faire des concessions. Parce que, vous voyez, dans notre pays, les gauches assez des ressources humaines. Il faudrait que l'une des parties ou l'un des ministres proposés accepte les propositions du Premier ministre. Sinon, le gouvernement va toujours. Il ne suffit pas du gouvernement où il doit se dire un gouvernement où il y aura toujours des réclamations, mais le peuple attend et le gouvernement quand le pas.
Merci beaucoup, Léon Mouzé. Peut-être un autre tour de table avant de terminer cette partie. Jacques Kimpozo, qui dirige actuellement le gouvernement? Est-ce toujours Gizenga ou y a-t-il une structure qui a été mise en place pour faciliter la bonne marche des activités de l'État?
Pour le moment, c'est Adolphe Mouzito qui est aux affaires. Mais nous savons que au sein de l'équipe sortante, il y avait un ministre chargé des activités auprès du Premier ministre, c'est Godefroy Mayobo. Donc nous pensons que c'est la paire Mayobo-Mouzito qui est en train d'expédier les affaires courantes. D'ailleurs, lors des tractations entre le Premier ministre et les différents alliés de l'AMP, on voit Mayobo toujours aux côtés de Mouzito. C'est la preuve que c'est Mouzito qui est occupé à expédier les affaires courantes.
Mais cela veut dire que Gizenga ne vient plus au bureau. Il a laissé directement sa place à d'autres Mouzito ou continue à expédier les affaires courantes?
Non, effectivement, le patriarche n'est plus visible à son bureau. Les rares fois qu'il est consulté, c'est chez lui, à la résidence officielle. Je crois que le travail de Mouzito et Mayobo est facilité compte tenu du fait que la cellule où ils expédient les affaires courantes est placée à côté de la résidence du Premier ministre.
Merci beaucoup. J'espère que ce n'est pas une gestion familiale des affaires de l'État. Albert Omba, est-ce que l'absence d'un gouvernement normal, c'est-à-dire qui n'est pas démissionnaire, ne bloque pas le bon fonctionnement des institutions du pays?
Oui, ça bloque tout. Parce que un gouvernement démissionnaire.
Il y a des infirmiers qui sont encore en grève, oui. La population qui continue à mourir faute de bons soins.
Les ministres existent seulement de fait. Ils n'ont aucune signature. C'est-à-dire qu'aucun ministre ne peut engager le gouvernement aujourd'hui. Même pour signer une sortie d'un montant dans un compte, il ne peut pas le faire. Donc tout est bloqué. Aucun ministre ne peut exercer en dehors des titres de ministre. Il n'a aucune signature. Donc, c'est vraiment le blocage total. Et ça m'étonnerait que pendant une longue période de transactions, on doit attendre alors qu'il y a une majorité qui est connue. Ce n'est pas à l'époque où il n'y avait pas de majorité, on doit chercher à construire. Mais la majorité est là, le quota est là, et je ne comprends pas comment on pouvait attendre aussi longtemps. Alors pendant tout ce temps, il y a l'insécurité à l'Est qui grandit, et finalement on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire.
Merci beaucoup Albert Omba. Une dernière question pour clore ce premier thème. Léon Moisé, la presse de Kinshasa a affirmé cette semaine que certains responsables politiques monnayaient des postes de ministres au gouvernement Mouzito. Est-ce que cela peut être possible dans une jeune démocratie comme la nôtre?
C'est inconcevable, Claude. Ce que j'ai dit auparavant, qu'il doit y avoir des concessions. Alors, le premier ministre, Adolphe Mouzito, ne doit pas plaire aux éternels insatisfaits. Vous savez, notre pays a tant souffert. Alors, si on va prêter une oreille attentive aux éternels insatisfaits, et je vous dis que le pays ira dans la dérive totale, parce que n'oubliez pas que nous avons besoin de compétences pour élever les défis dans notre pays.
Merci beaucoup Léon. Parlons maintenant francophonie dans notre second thème du jour. Le deuxième sommet de la francophonie s'est clôturé dimanche dernier à Québec au Canada. Le prochain se tiendra dans l'île de Madagascar en 2010. La RDC, qui était aussi candidate pour l'organisation de ses prochaines assises, ne pourra les accueillir qu'en 2012. Pour le porte-parole du ministère congolais des Affaires étrangères, le choix porté sur la RD Congo en 2012 est une victoire vu la multitude des candidatures. Claude Samanga Moutonde a été joint depuis Québec au Canada par notre consoeur Lévin Mbunga.
Le sommet de 2012 sera organisé à Kinshasa en République démocratique du Congo. Ça, c'est l'une des plus grandes résolutions que nous pouvons considérer comme un acquis en faveur de la République démocratique.
Qu'est-ce qui a motivé le choix de Madagascar selon vous?
Bon, il faut quand même toujours se mettre en tête que dans la tradition de ce genre de rencontres, en définitive, il apparaît que un choix peut être porté sur un pays ou un autre. Il y avait plus de deux candidats en lice de Madagascar, la République démocratique du Congo et même les pays du sud-est asiatique. Ce qu'il faut retenir et ce qui est peut-être le plus important, c'est que un grand travail a été fait, une mobilisation sans faille s'est révélée autour de la République démocratique du Congo et de la solidité du plaidoyer qui a été déployé ici à Québec. Nous considérons que c'est une très grande victoire. Enfin, il faut le dire.
Finalement, Jacques Kimpozo, le Madagascar a rappelé à la RDC l'organisation du prochain sommet de la francophonie. Est-ce d'après vous un camouflet, comme l'a déclaré une certaine presse de Kinshasa?
Si les officiels se réjouissent d'avoir arraché l'organisation du sommet de la francophonie pour 2010, pour le commun des Congolais, on considère qu'effectivement, le pays a réussi un camouflet au Québec. Compte tenu du fait qu'on avait placé beaucoup d'espoir sur notre candidature pour 2010.
Certains pensaient même qu'on était franchement favoris.
On était présenté comme les super favoris, compte tenu du fait que nous avons toujours revendiqué le statut de plus grand pays francophone du monde. Mais il y a aussi le fait que notre candidature est en souffrance au niveau de la francophonie depuis 90. Et que ce sont les événements de mai 90 à Lubumbashi qui avaient fortement gêné cette candidature sous le régime de Mobutu. Donc, on ne peut pas comprendre qu'une candidature qui traînait là depuis pratiquement 18 ans n'ait pas pu arracher les consentements de nos partenaires de la francophonie. Et
Qu'est-ce qu'on aurait dû faire, hein?
Je pense qu'il n'y a pas eu suffisamment de lobbying fort sur le plan politique, diplomatique et autres pour amener ceux qui devaient voter à soutenir la candidature de la RDC.
Merci beaucoup, Jacques. Je me tourne vers vous, Albert Omba. Vous êtes journaliste de Tropicana FM, également au sein de la rédaction de, du journal Numérica. Vous avez suivi la revue de la presse. Le quotidien de l'avenir a parlé de qui perd gagne. La RDC a perdu en 2010, mais elle gagne l'organisation du sommet de la francophonie en 2012. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, c'est une petite victoire par rapport aux espérances de la RDC, parce que 2012, ça fait 4 ans après. Mais si on pouvait organiser ça dans 2 ans, ça aurait un impact beaucoup plus important que dans 4 ans.
Quel impact, par exemple?
L'impact sur le plan politique, le plan diplomatique. Et cette organisation de la francophonie pourrait aider la RDC à avoir une piste de solution sur le problème de l'Est avec ses voisins du Rwanda et du Burundi qui font partie de cette communauté. Ça aurait été aussi une avancée significative. Mais moi, je crois que comme raison de recul de cette organisation pour la RDC à 2012 plutôt, c'est dû d'abord à l'absence d'un gouvernement légitime. On ne pouvait pas traiter, parce que la RDC n'avait pas un gouvernement pendant que se tenait cette conférence, et qui pouvait traiter. Tous les accords et tout ce qu'il devait avoir, comme même le ministre qui a représenté la RDC n'avait pas un mandat officiel parce qu'il était démissionnaire. Donc il y avait une forte chance que la candidature de la RDC ne soit pas prise à cause. Il y a une autre raison aussi, le chef de l'État qui est le plus sûr de ce gouvernement n'était pas présent pour des raisons bien sûr de la sécurité, parce que le chef d'État ne pouvait pas quitter la RDC au moment où il n'y avait pas de gouvernement, au moment où il y avait aussi la guerre à l'Est.
Mais il est quand même parti dernièrement en Afrique du Sud, au sommet de la SADC.
Oui, à l'époque, la crise à l'Est n'avait pas atteint le niveau qu'il a actuellement. J'espère aussi qu'au niveau de la francophonie, il y avait et une ligue des anciens pays de l'ex-colonie française, de l'Afrique équatoriale française, occidentale française, qui se sont ligués aussi, compte tenu de l'ancienne colonie belge, dont la RDC, le Rwanda, Burundi, situé avec la position du Rwanda, qui était une ancienne, qui est aussi dans les girons francophones, mais qui, brusquement, 2-3 jours avant la conférence, a opté pour de se pencher sur le secteur anglophone.
Merci beaucoup. Nous avons aussi en ligne depuis Colésie au Katanga notre confrère Léon Mouzé. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la radio communautaire de Colésie au Katanga. Qu'est-ce qui explique d'après vous le fait que la RDC n'ait pas réussi à arracher l'organisation du prochain sommet de la francophonie?
Je voudrais souligner que la diplomatie n'a pas été forte au niveau de Québec, donc la diplomatie congolaise. En plus de ça, hein, moi je veux souligner que vraiment il y a nous avons au sein de nos institutions, hein, nous savons qu'il y a des compétences différentes, on devait adjoindre d'autres personnalités de la République démocratique du Congo pour renforcer la diplomatie au niveau de Québec. Mais aussi j'ajouterais que la France devait carrément désigner la République démocratique du Congo en tenant compte des priorités et surtout parce que la République démocratique du Congo est deux chefs pays francophones au monde.
Mais la France ne peut pas choisir à elle seule. Il y a aussi beaucoup d'autres pays francophones qui ont un droit de vote.
Oui, je dis que la France a droit de veto dans ces genres de vote.
Mais est-ce que vous pensez que le fait quand même que la RDC ait obtenu l'organisation du sommet de la francophonie qui se tiendra en 2012, si je ne me trompe pas, est une victoire également de la diplomatie congolaise malgré l'absence du chef de l'État qui a quand même une plus grande représentativité de la République démocratique du Congo vis-à-vis de l'étranger?
En fait, c'est une petite victoire, hein, mais ce que nous pouvons faire aujourd'hui, hein, nous ne pouvons pas ramener à demain. Vous savez, en 2012, nous serons confrontés peut-être à autres problèmes, comme des élections, et vous voyez préparer encore l'accueil de la francophonie. Moi, je sais que ça va nous coûter, mais nous devions accueillir le sommet de la francophonie en 2010 en tenant compte des problèmes que nous avons, parce qu'à travers la francophonie, on pourra résoudre les problèmes qui se posent dans la région des Grands Lacs et renforcer, et bien entendu, l'attachement à la langue française dans notre pays, Claude Chanza.
Merci beaucoup, Léon. Jacques Kimpozo, je rappelle que vous êtes coordonnateur ou rédacteur en chef adjoint du quotidien Le Pas, paraissant ici à Kinshasa. Qu'est-ce qu'on gagne lorsqu'on organise un sommet de la francophonie?
On gagne beaucoup, étant donné que la francophonie a dépassé le cadre d'un événement culturel. Il est devenu un instrument de développement. On y parle d'un peu de tout, de la crise financière, de la protection de l'environnement, des changements climatiques, des institutions politiques, de la bonne gouvernance, de la démocratie, etc. etc. En accueillant ce sommet-là en 2010, ici en RDC, nous aurions pu poser le problème de l'insécurité à l'est du pays, poser le problème de la difficulté de mettre en place les institutions démocratiques ici au pays. On aurait pu poser tout ce qu'on a comme problèmes économiques.
On aurait pu bénéficier également des infrastructures qui accompagnent la tenue des sommets.
Bien sûr, nous sommes en train de parler des contrats chinois pour financer les infrastructures. On aurait pu poser ce problème-là dans le cadre de la francophonie et obtenir un appui financier de la part de nos partenaires. Donc, on aurait pu poser et peut-être poser des problèmes et obtenir beaucoup de solutions à ce problème en accueillant le sommet dans l'immédiat, c'est-à-dire en 2010.
Mais certains analystes reprochent à la francophonie de n'être pas aussi dynamique que l'est notamment le Commonwealth, l'association qui réunit les pays ayant la langue anglaise en commun.
Il n'y a pas longtemps que la francophonie est en train de opérer sa métamorphose, c'est-à-dire le passage du cadre culturel à un cadre général. Les institutions sont en train de s'organiser pour financer des aides de développement. Je peux prendre le cas du Canada, qui a décidé de mettre à la disposition des pays d'Afrique, aussi du Sahara, d'environ 100 millions de dollars canadiens, plus ou moins 84 millions de dollars, rien que pour les programmes destinés à la protection de l'environnement et au changement climatique. Donc on peut penser que d'autres pays tels que la France ou d'autres puissances pourraient mettre de l'argent dans le cadre de la francophonie pour appuyer d'autres secteurs de développement.
Albert Omba, qu'est-ce que le Congolais qui se trouve au fin fond de la province du Maniema, au fin fond de la province du Katanga, au fin fond de la province du Kasaï ou du Bandundu ou de l'Équateur peut bénéficier grâce à la francophonie?
C'est comme ça que je viens de le dire, il y a un impact financier, un impact politique aussi sur ce projet. Mais pour quelqu'un du Maniema ou de Kasongales ou Katanga,
vous êtes d'ailleurs originaire du Maniema.
Bon, alors ce qu'il peut bénéficier, si il y a une organisation de la francophonie au niveau de la RDC, tout le monde saura que le français qu'il parle, c'est une langue internationale.
Mais en perte de vitesse pour certains analystes.
Oui, mais c'est ça qu'il faut. L'anglais. Et il faut maintenant réchauffer, il faut redémarrer, cadrer, de façon qu'on puisse savoir. Et puis, la République démocratique du Congo est le plus grand pays où le français est respecté et parlé. Donc, il faut que ça permettra aux Congolais de savoir que le français dont ils parlent, c'est déjà une richesse qu'ils doivent bien garder et qu'ils peuvent les aider ailleurs. Donc, ce n'est pas les français qu'ils parlent pour le plaisir de parler, mais qu'ils doivent bien gérer, parce que c'est une richesse aussi.
Léon Moisé, est-ce que vous êtes de cet avis, malgré l'avancée de la langue anglaise dans le monde des affaires, de la technologie, et beaucoup d'écoles congolaises ont commencé à enseigner l'anglais aux élèves même du primaire, est-ce que vous pensez que le français vaut encore son pesant d'or dans ce pays?
Oui, nous comptons toujours à la langue française. Hein. Vous avez parlé l'anglais, il faut beaucoup de temps pour que qu'on puisse s'exprimer sur cette langue. Les Congolais et la population les écoles ici attachent beaucoup l'importance à la langue française.
Excusez-moi, Léon, ici à Kinshasa, il y a beaucoup de centres d'apprentissage de la langue anglaise parce que les gens disent que pour avoir un bon boulot aujourd'hui, un bon travail, il faudrait maîtriser non seulement le français, mais aussi l'anglais et l'informatique. Est-ce que chez vous, à Kolezi, il y a aussi beaucoup des centres d'apprentissage de la langue anglaise?
Il y a beaucoup de sens ici, en tenant compte des entreprises, des mining au niveau du collégie. Il y a beaucoup d'anglophones dans ce coin. Il y a beaucoup de sens, mais la langue française pèse toujours dans ce pays.
Merci beaucoup. C'est avec vous que nous passons directement à la dernière partie de cette émission. Donc, nous abordons notre troisième thème, c'est-à-dire celui des attaques cette semaine dans la province orientale des rebelles ougandais de la LRA. Ces derniers ont attaqué mercredi dernier le village de Kikili, situé à 5 km de Ngilima, où se trouvent postés des éléments FARDC. Nous sommes là dans le territoire de Dungu, à environ 800 km au nord-est de Kisangani, dans la province orientale. Selon des sources humanitaires à Dungu, une dizaine de maisons ont été incendiées et près de 15 personnes enlevées. Ces dernières ont été relâchées le lendemain grâce à l'intervention des éléments FARDC. Entre-temps, près de 6000 déplacés recensés à Dungu Centre vivent sans assistance. Des explications depuis Kisangani avec notre consoeur Godlib Omondo.
C'est tard dans la nuit de mercredi que les assaillants ont fait irruption dans le village de Kitili. Ils ont pillé, incendié des maisons et emporté avec eux des villageois dans la brousse. Ceux-ci ont été relâchés jeudi matin grâce à l'intervention des FARDC venus de Ngilima à leur rescousse. Selon le commissaire des districts intermédiaires du Haut-Touéli, André Mola, tout est mis en œuvre pour mettre hors d'état des murs le rebelle de la LRA. Toujours selon lui, les éléments FARDC se déploient progressivement dans différents villages à l'intérieur de Dungu. Pendant ces temps, près de 6000 déplacés en provenance d'une vingtaine de villages vivent toujours sans assistance à Dungu Centre. Ils viennent notamment de Duru, Nandia, Tongo, Bitima et Nakale, théâtre des attaques des rebelles de la LRA en septembre dernier. Toutefois, le bureau de coordination des affaires humanitaires à Dungu dit avoir évalué les besoins de ces personnes déplacées. Selon lui, les différentes agences des Nations Unies opérationnelles à Dungu, notamment les HCR, comptent ouvrir la semaine prochaine un pont aérien avec l'Ouganda pour l'acheminement des vivres et non-vivres vers Dungu Centre. Selon la même source, l'assistance en faveur des déplacés de l'intérieur dépendra de la sécurisation de ces milliers par les FARDC, qui s'en
Merci beaucoup Godlib Omondo et participant à l'émission Dialogue entre Congolais de lundi dernier, le vice-gouverneur de la province orientale, M. Joseph Bangakia, a promis à la population de sa province que dès l'année prochaine, on ne parlerait plus du problème de la LRA. Joseph Bangakia a été interrogé par notre confrère Jean-Claude Toumbakamanga dans l'émission Dialogue entre Congolais. On le suit.
Nous allons tout mettre en œuvre. Nous avons des troupes, vous savez, avec l'armée. Il faut éviter l'impréparation, parce qu'il faut bien que ce problème soit réglé. Et donc, l'armée est en phase d'approche, nous occupons le terrain. Il y a 5 mois, quand je disais au mois d'avril que l'armée viendrait, que nous allons bouter la LRA dehors, même la population de Dungu croyait que c'était des promesses. Non, moi je vous dis que ce problème date de je crois, des environs des années 1997-98. Et 10 ans plus tard, nous sommes les premiers à avoir pris la mesure de la situation. Nous avons déployé, au final, nous aurons, n'ose même pas citer le nombre total de militaires, mais ils sont là en phase. Oui, la vérité est que le déploiement se fait selon un plan stratégique et il faut un support logistique. Mais très bientôt, nous mettons les bouchées doubles, très bientôt, nous aurons rapidement couvert tout le territoire de Dungu. Et je vous promets que l'année prochaine, au plus tard, on ne parlera plus de la LRA dans le territoire de Dunkerque et dans la province.
C'est
ce n'est pas une promesse, je vous dis que nous y travaillons.
Jacques Kimpozo, Mayala, vous venez de suivre la promesse faite par le vice-gouverneur de la province orientale. Et pourtant, on sait qu'une centaine d'enfants avaient été enlevés par la LRA depuis près de 2 semaines. Ils n'ont toujours pas été libérés, mais il y a quand même une bonne nouvelle. Une quinzaine de personnes enlevées par la LRA ont été libérées grâce à l'intervention des FARDC. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
C'est encourageant d'entendre les autorités politiques de la province orientale promettre une organisation plus solide des FARDC pour essayer de sécuriser cette partie de la République. Mais ma grande crainte est que on se trouve dans une zone d'insécurité au nord de la RDC, au sud du Soudan et à l'est de l'Ouganda. Si la rébellion ougandaise continue d'opérer sur un territoire où l'armée nationale a du mal à se déployer chez nous et que l'armée soudanaise a du mal à faire le travail de son côté, de même que l'armée ougandaise, on va continuer à avoir des problèmes. On risque d'intervenir toujours sur l'État, c'est-à-dire au moment où on aura déjà tué des Congolais, au moment où on aura déjà pillé. Je pense qu'il faudrait une action concertée entre le gouvernement de la RDC, de l'Ouganda et du Soudan, pour sécuriser non seulement le nord de la RDC, mais aussi le sud du Soudan et l'est de l'Ouganda.
Merci beaucoup, Jacques. Albert Omba, c'est un drame. Il y a une centaine d'écoliers qui avaient été enlevés par la LRA. On voit que dernièrement, les FARDC ont permis la libération des 15 otages des mains de la LRA. Est-ce qu'ils ne pouvaient pas aussi le faire pour libérer cette centaine d'écoliers congolais dont on ignore aujourd'hui où ils se trouvent?
Oui, c'est ça la question aussi, parce que Dungu, c'est un vaste territoire éparpillé à pleine forêt équatoriale. Donc, le déploiement de forces armées congolaises aussi aura énormément de problèmes. Pour ce que les forces armées devaient faire, c'est d'abord limiter la sortie, parce que la plupart de ces rebelles LRA font la traversée vers le Soudan et puis reviennent attaquer le village au niveau de la RDC. Donc, en dehors du déploiement, ils devaient faire un effort aussi dans ce déploiement, occuper les points stratégiques, parce que si les villageois doivent faire l'autodéfense, finalement, ça va créer un autre phénomène qui nous
déplore. Oui, parce qu'il y a eu des jeunes Congolais qui sont morts dernièrement. Si je ne me trompe pas, c'était dimanche dernier. Ils ont voulu s'attaquer aux LRA à cause des ravages, des actes de violence qu'avaient commis ces LRA. Ils les ont affrontés sans être bien armés. Il y a eu 6 tués parmi ces jeunes gens Congolais et puis un tué parmi les LRA. C'est quand même assez dangereux que la population se prenne en charge. Est-ce qu'ils se sentent, ces Congolais se sont-ils sentis délaissés pour affronter les LRA?
Effectivement, ils étaient délaissés, ils ne pouvaient pas se faire écraser, laisser leurs enfants élevés par les LRA. C'est comme ça qu'ils ont réagi, malgré braver tous les dangers. Et ici, les officiels de la province orientale donnent des précisions qu'ils vont sécuriser la région. Tant mieux. Moi, ce que je crains, c'est
rapidement
l'évolution du phénomène autodéfense, qui crée maintenant d'énormes problèmes au nord-sud qui va au Maïma avec le phénomène Maïma. C'était des petits groupes là d'autodéfense qui aujourd'hui ont généré à plusieurs groupes Maïma non gérables par ni les FARDC ni qui que ce soit.
Merci beaucoup, Albert Omba. Léon Moisé, qu'est-ce que vous pensez du phénomène des groupes d'autodéfense et qui risquent d'avoir et de trouver également racine au niveau de Dungu, parce qu'on a vu des jeunes gens qui ne sont pas suffisamment armés aller défendre leur population, leurs frères et sœurs, face à des rebelles ougandais, quand même assez bien armés. Qu'est-ce que vous en pensez? Y a-t-il risque?
Oui, s'il y a des jeunes gens qui se sont défendus, c'est peut-être par manque de la présence des FARDC dans cette partie de Dungu. Vous voyez, les gens ne pouvaient pas c'est nécessaire, il fallait sauver ce qu'on pouvait sauver. En fait, ce qui est important, hein, que les FRDC puissent se déployer au niveau là, de, au niveau des Bingou. Vous voyez, l'ENRA, l'armée israélienne, se déploie à tout moment dans cette partie de l'est de la province orientale. Alors, il faudrait de moyens conséquents. Si peut-être les FRDC n'arrivent pas, on essaie de déployer un effort et au besoin. Nous avons parlé autrefois de la motivation. On peut toujours motiver les FRDC pour qu'ils arrivent au fond et qu'ils puissent défendre notre territoire.
Mais je vous rappelle que les FRDC se trouvent dans les territoires du Dungu, hein, mais ils ne sont pas dans tous les endroits où sévissent la ELERA. Mais est-ce que vous pensez que la solution serait peut-être une offensive généralisée des FRDC contre la ELERA, car avec la libération des 15 otages par les FRDC basés à Ngilima, cela prouve peut-être que les FRDC ont une capacité militaire avérée que peut-être certaines personnes négligent aujourd'hui.
C'est l'un des moyens, ce qu'on peut demander aux FRDC, c'est de se déployer dans tous les coins. Parce que ça devient une habitude pour les ELERA de pouvoir tout à perpétrer des massacres dans cette partie de l'Est. Donc les FRDC doivent se déployer dans tout le territoire de Dungu. Et le gouvernement, si les effectifs ne permettent plus, ils doivent penser déjà à renforcer les capacités, les stratégies pour mettre au départ les livres, les ELERA. Mais je voudrais aussi ajouter ici que le problème des ELERA, c'était un problème qui a un complexe. Une complexité internationale qui demande une explication de la communauté internationale et bien entendu de l'Ouganda pour qu'on puisse mettre fin à ces actions.
Merci beaucoup Léon Mouindé. Jacques Kimpozo, cette rébellion de la ELERA qui fait souffrir aujourd'hui nos frères et sœurs, mais quand même l'Ouganda n'a pas pu y mettre fin pendant plus de 20 ans. Est-ce que la RDC aujourd'hui a les capacités de pouvoir y mettre fin, même avec l'aide de certains pays limitrophes comme l'Ouganda, le Soudan, par exemple?
La présence continue de la RLA dans le nord de notre pays me fait penser aux rebelles rwandais. On a le sentiment que le gouvernement ougandais en a fait aussi son fonds de commerce. Il semble que le gouvernement de Kampala a toujours pris prétexte de la présence de ces rebelles à cette frontière pour ne pas démocratiser correctement le pays. Et donc, d'une manière ou d'une autre, le fait qu'il y ait tout le temps des rebelles ougandais sur notre territoire arrange Museveni.
Mais est-ce qu'ils arrivent encore à frapper en Ouganda où leur champ d'activité aujourd'hui c'est le Congo, comme les FDLR qui n'arrivent plus à frapper le Rwanda, mais leur champ d'activité c'est de frapper les Congolais?
Il semble que, comme le font souvent les FDLR à l'Est, ce sont parfois des militaires ougandais qui vont attaquer eux-mêmes des villages ougandais en Ouganda et qui mettent ces attaques-là sur le compte des FDLR. Donc, c'est pourquoi je disais que...
Ça, c'est vous qui le dites, hein.
Oui, c'est une rébellion instrumentalisée. Dès que Museveni constate qu'on veut lui demander des comptes sur le plan de la démocratisation du pays, il ressort les activités de cette rébellion-là. Donc, tant que nous, de notre côté, nous n'aurons pas la capacité militaire nécessaire pour gérer cette rébellion, elle va continuer à nous causer des ennuis.
Merci beaucoup Jacques. Albert Omba, est-ce que la solution n'était pas aujourd'hui d'arrêter carrément Joseph Kony et certains leaders de sa bande?
C'est une des solutions, mais sur le terrain, même si on arrête Joseph Kony, et il sera coupé de ce combattant qui erre pratiquement en isolement. Et c'est comme le cas que Jacques vient de dire tout à l'heure des SDLR. Ce sont des îlots de combattants qui sont éparpillés à travers les forêts congolaises. Et c'est question d'avoir une stratégie pour contenir tous ces îlots-là de rebelles.
Quelle stratégie?
La stratégie, c'est de savoir les localiser, d'être en contact avec la population locale qui va donner des renseignements précis sur les emplacements. Et le problème est fini.
Nous allons terminer avec vous, Léon Moïse, sur ce problème de la LRA. Il y a beaucoup de réfugiés aujourd'hui, ça pose quand même un problème. Comment mettre fin à ce problème des déplacés éternels, si je peux le dire, en République démocratique du Congo et à l'est du pays en particulier?
En fait, pour mettre fin au problème des déplacés de guerre, il faut finir avec la guerre. Tout de suite, là, nous parlons des juges connus. D'ailleurs, la Cour pénale a lancé un mandat international. Donc, il faudrait pas tout simplement arrêter les juges connus et toute sa bande, mais il faut aussi démanteler tous les réseaux. On a connu avec Montebus les partis, on a vu Kunda. Et là, il faudrait démanteler tous ces réseaux. Et en fait, c'est de la manière dont on peut mettre fin à cette calamité de notre population.
Merci beaucoup. C'est par vous que nous terminons cette tribune de la presse. Merci à nos confrères qui ont participé pendant 4 vendredis de suite à cette tribune de la presse. Bon week-end à tous.
Oh, Capi, oh, Capi.